en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le lundi 12 octobre, lors de sa séance hebdomadaire, l'Académie des sciences morales et politiques a écouté la notice sur la vie et les travaux du géographe Pierre Georges, lue par son successeur Jean-Robert Pitt, lui aussi géographe, et qui siège désormais dans la section Histoire et géographie. Jean-Robert Pitt en est ainsi le 8e titulaire. Comme l'a rappelé le président de séance Jean-Claude Casanova, qui a retracé l'histoire de la géographie dans les académies et à l'Institut de France, la géographie a toujours été présente à l'Académie royale des sciences. Bougainville en fut l'un des plus illustres membres. Puis, à partir de 1976, l'Académie des sciences a renoncé à la section géographie et à la discipline qu'elle représente, et la géographie a été désormais présente à l'Académie des sciences morales et politiques. La parole est maintenant à Jean-Robert Pitt.
Permettez-moi de vous plonger tout de suite dans trois atmosphères géographiques fort contrastées. Voici la première. Le Jura présente aux yeux tous les agréments de la montagne, sans jamais donner l'impression souvent pénible d'étouffement et d'écrasement que l'on éprouve au fond des grandes vallées alpestres, laissées très tôt dans la pénombre, entre les grands versants sombres qui cachent au regard la fantasmagorie mobile des reflets étincelants des glaciers et des grands pics roses ou violacés. Tout y est mesuré, adouci, sans cesser d'être maintes fois imposant. Passons à la deuxième, tout de suite, si vous voulez. La charge très lourde de l'administration urbaine et de l'administration générale en économie dirigée exige la construction d'un nombre élevé de bâtiments spacieux abritant les services publics. L'urbanisme doit donc en premier lieu envisager des constructions nouvelles, pratiques, aérées, claires, adaptées aux nouvelles exigences de la vie sociale. Des édifices nouveaux, aux lignes géométriques, se hissent au-dessus des vieilles maisons, tantôt isolés, tantôt par groupes, comme l'immense masse du palais de l'industrie à Kharkov. Et voici enfin la troisième. La colline n'a plus été seulement le repère des villageois à l'heure où sonnaient les cloches de l'église bâtie à son sommet. Elle a perdu ses charmes secrets, de gîte des escargots les jours de pluie ou de terrier des lapins. Elle est devenue un accident tectonique ou géomorphologique, un revers de côte ou un abrupt de faille. Le langage du géographe s'est coupé de l'homme et du lieu. Et en même temps, l'ensemble du paysage rural a été désarticulé et dévitalisé. Les collines demeurent parce qu'elles ont existé avant les hommes, mais le temps des collines est révolu, sauf en quelques lieux écartés où les sites bénéficient de la protection de la nature en perdition et de la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Voilà, le contraste de style et de sensibilité est saisissant. Mais vous l'aurez deviné, compte tenu de la circonstance qui nous rassemble aujourd'hui, l'auteur est le même dans des écrits de 1941, de 1947 et de 1995. C'est donc Pierre Georges, le maître qui a dominé la géographie française pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle et que j'ai l'agréable mission d'évoquer devant vous aujourd'hui puisque vous m'avez fait l'honneur de m'élire au deuxième fauteuil qui fut le sien et jadis celui de Jules Michelet pendant 36 ans, lui aussi auteur d'une belle description de la France. Si j'ai prononcé l'adjectif « agréable », ce n'est pas seulement par égard pour ses proches ou pour ses nombreux anciens élèves ici présents et ses amis qui m'honorent de leur amitié, mais c'est parce que j'ai été l'étudiant de Pierre Georges, comme un certain nombre d'entre nous ici, et que je peux témoigner du soin qu'il apportait à préparer ses cours, à corriger ses copies, j'en conserve une, que j'évoquerai dans un instant, à répondre avec le sourire aux questions qui lui étaient posées. Certes, sa matière était austère et souvent très chiffrée, puisque les faits démographiques et de production économique le passionnaient. Mais il était un professeur plein d'urbanité, et nous le respections tous pour cela. J'étais en deuxième année d'université en 1968. Pierre Georges, cette année-là, était en mission prolongée au Canada. Permettez-moi de dire quel dommage. Il a pensé tant de mal du nihilisme et de la veulerie de cette triste période qu'il serait peut-être parvenu à assagir le vent de folie qui soufflait à l'Institut de géographie de la rue Saint-Jacques, émanant en partie de ses élèves, dont certains, pour notre malheur, n'avaient pas su évoluer plus tôt en renonçant à leur rêve de grand soir. Le 2 novembre 1968, il écrit à son grand ami Louis-Edmond Hamelin au Québec, Mais que va-t-il sortir de tout cela? Partout, le corps enseignant est très divisé. Il y a beaucoup de bonnes intentions, de la part des jeunes surtout, mais il y a aussi de sournoises manœuvres qu'il n'est pas toujours facile de définir et encore moins de démasquer en temps utile. Les trois passages que je vous ai lus en introduction, tirés de l'impressionnante œuvre de Pierre Georges, plus de 60 livres que j'ai choisis, témoignent de l'évolution de sa pensée. Ils révèlent aussi ses enthousiasmes, ses convictions et la tristesse dont il a été habité pendant les dernières décennies de sa longue vie, alors qu'il se sentait nostalgique à la fois de la géographie de sa jeunesse, mais aussi des espoirs qu'il avait longtemps mis dans le modèle sociopolitique né et mis en œuvre à l'est de l'Europe, avec l'insuccès que l'on connaît, ce qu'il avait perçu pour sa part dès 1956, comme tant d'autres. En relisant ces trois ouvrages, et bien d'autres publiés sur une durée de 7 décennies, je songe aux belles paroles de la chanson de Prévert, que je ne vais pas vous chanter, rassurez-vous, en ce temps-là, la vie était si belle, et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui, les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Ce lundi académique est un jour émouvant, car Pierre Georges est né à Paris le 11 octobre 1909, c'est-à-dire il y a exactement un siècle et un jour. Il attribuait sa vocation pour la géographie à la génétique. Je m'explique, son père était ingénieur agronome, inspecteur du crédit foncier, et avait voyagé toute sa vie dans les campagnes normandes. Et Pierre Georges dit lui-même, « Il m'a initié aux études de terrain, aux hommes qui occupent le terrain, autrement dit, à tous les éléments de la géographie. » En réalité, il n'est venu à la géographie que tardivement, ayant hésité, comme beaucoup de brillants étudiants de cette époque, entre plusieurs disciplines. Il était titulaire, certes, d'une licence d'histoire-géographie, mais aussi de sciences. Il avait beaucoup aimé l'histoire que lui avait enseigné Roubaud, son professeur de Cagnes à Charlemagne, et tout spécialement l'histoire ancienne qu'il avait découverte en Sorbonne grâce à Glotz et à Carcopino. Il ne faut pas oublier que l'agrégation était alors d'histoire et de géographie. Pierre Georges y est reçu premier en 1930, à 21 ans. Les années précédentes, le lauréat recevait une bourse autour du monde. Pour la première fois, celle-ci n'est pas attribuée. Il décide donc de se replier sur la France et se lance, sous la direction d'André Chollet, dans la préparation d'une thèse d'État de géographie régionale sur le Bas-Rhône. Ce fut, dira-t-il plus tard, un enchantement. Lorsqu'on lui demanda en 2002 quel était le plus beau souvenir de sa carrière, il répondit à notre ami Gérard Joly, au magnétophone, « C'est assurément la découverte du milieu méditerranéen. Je suis né à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1917, ma famille m'a soustrait, en fait c'était avant, en 1917, ma famille m'a soustrait aux terreurs de Paris pour me transférer dans le midi méditerranéen, à Avignon, où mon père avait été chargé d'organiser l'accueil des grands blessés et des malades de guerre. Travail de terrain, initiation aux conditions du climat, du milieu, ça a été pour moi la justification du choix de cette région comme sujet de thèse. Il aimait tellement ces paysages de son enfance et de ses premières recherches que ses cendres furent dispersées par ses proches depuis une colline proche du Ventoux. Il soutient sa thèse 4 années plus tard. C'est un petit prodige, compte tenu de la masse d'informations qu'elle contient. Il n'a que 25 ans et du fait qu'il enseigne alors au Prytanée militaire de la Flèche et ne peut donc travailler sur le terrain que pendant les vacances. Son très jeune âge témoigne d'une capacité de travail et d'une maturité exceptionnelle. À la lecture de cette thèse, on ressent très bien que la géographie régionale se cherche encore et, comme beaucoup de thèses du milieu du XXe siècle, peine à synthétiser les différentes composantes physiques et humaines de l'identité d'un territoire. Néanmoins, comme Yves Lacoste l'a remarqué, je crois, en lisant la thèse très tardivement, il y a des remarques très, très pertinentes et très originales, en particulier sur le rôle des communautés juives d'Avignon dans l'irrigation des plaines du Comtat et dans le développement de cette région du Bas-Rhône, et qui étaient des propos peu habituels sous la plume d'un géographe à cette époque. L'obtention d'un doctorat d'État ne change rien à sa situation professionnelle. Il demeure professeur de lycée de 1930 à 1946. Ce qui n'apparaît pas à l'époque comme une punition, même pour un major d'agrégation. Il est vrai que l'atmosphère des lycées est fort différente de celle qui y règne désormais. Chacun sait qu'aujourd'hui, beaucoup de normaliens et de jeunes agrégés souhaitent aussitôt intégrer l'enseignement supérieur ou même la recherche sans enseignement, voire ne pas rentrer à l'éducation nationale. On reconnaîtra que l'enseignement secondaire développe la capacité de synthèse, le sens pédagogique, en particulier l'attention aux réactions de l'auditoire, et donc une certaine empathie avec celui-ci. Une capacité à se mettre à sa place et à sentir ses émotions. Notre compagnie réfléchit cette année au thème « Université, sciences et recherche dans la France d'aujourd'hui ». J'en profite, Monsieur le Président, si vous me le permettez, pour verser à nos débats cette idée très incorrecte dans certains milieux. L'enseignement oral entretient la mémoire et l'agilité intellectuelle, aide beaucoup à la clarification de la pensée et stimule la recherche, tant dans son rythme que dans l'émergence des idées neuves, ce qui devrait inviter les princes qui nous gouvernent à réfléchir au bien fondé d'un corps de chercheurs non enseignants à vie. Bien que docteur d'État, Pierre Georges enseigna avec joie à des collégiens, parmi lesquels le jeune Alain Perfitte, en 6e. Il gardait avec ravissement le souvenir d'un cours de 6e à Montpellier, au cours duquel il avait expliqué la préhistoire à ses élèves, et la semaine suivante, plusieurs lui avaient apporté des vestiges archéologiques trouvés dans les armoires familiales ou dans les champs de leurs parents. Ce dont il n'avait su que faire, d'ailleurs. Les talents pédagogiques de Pierre Georges frappaient ses étudiants. Il les avait en partie acquis auprès d'André Cholet, qu'il admirait plus pour cela que pour son œuvre scientifique, a-t-il écrit. Je vous livre le témoignage d'Hubert Charbonneau, professeur de géomorphologie à l'Université de Montréal, qui suivit ses cours à la fin des années 1950. Voici ce qu'écrit Charbonneau. Je me souviens en particulier du cours de géographie économique qu'il donnait le samedi matin à l'Institut de géographie de la rue Saint-Jacques. Il arrivait à l'heure précise, déposait devant lui quelques feuillets qu'il ne consultait jamais et procédait ensuite à un cours proprement magistral, d'une rare clarté, citant pourtant des dizaines de chiffres, tantôt sur la production de charbon et du pétrole dans telle ou telle contrée, tantôt sur les échanges commerciaux dans les divers continents ou le revenu par habitant de différents pays. On entendait les mouches voler dans le vieil amphithéâtre bondé, et quand le maître, au terme d'une heure exacte, quittait la salle après avoir exposé ce qu'il avait à dire, ni plus ni moins, des applaudissements aussi spontanés que nourris éclataient invariablement, tant les jeunes étudiants pourtant prompts à la critique, que nous étions, ne pouvaient que s'incliner devant la performance pédagogique à laquelle ils avaient eu la chance d'assister. La description d'Hubert Charbonneau est conforme au Pierre Georges que les étudiants de ma génération ont connu alors qu'il avait environ 60 ans. Malheureusement, à cette époque, on n'entendait déjà plus les mouches voler dans les amphithéâtres universitaires et les applaudissements n'étaient plus de mise. En revanche, Pierre Georges se passionnait toujours pour les chiffres touchant à la démographie ou à l'économie. C'est probablement lui qui est à l'origine de leur multiplication dans tous les manuels de géographie de la deuxième moitié du XXe siècle, en particulier ceux du secondaire. Comme la chronologie pour les historiens, les chiffres ne peuvent constituer au mieux que le squelette d'un discours géographique. Pierre Georges savait les habiller de chair et les rendre éclairants. Ses épigones, beaucoup moins. Et ils contribuèrent à détourner de la géographie une partie des lycéens et de leurs professeurs d'histoire géo, plus motivés par l'histoire, qui évoluait plus rapidement, que par la géographie. Pour être tout à fait exact, il y a aussi une autre raison. Les géographes universitaires, entraînés dès l'entre-deux-guerres par Emmanuel de Martonne, avait fait de la géomorphologie structurale une autre épreuve de la course d'obstacles menant au certificat de géographie de la licence d'histoire, puis au CAPES d'histoire-géographie et à l'agrégation tant de géographie, lorsqu'elle a été créée, que d'histoire. Le déclic se produisait parfois, et certains historiens parvenaient à prendre goût à l'exercice du commentaire de cartes topographiques et géologiques, un peu comme on peut être séduit par le thème grec. Quelques historiens de notre compagnie ou présents aujourd'hui m'ont confessé l'intérêt qu'ils avaient pris à s'initier à ce savoir druidique. D'autres ragent encore d'avoir échoué au moment des examens ou des concours à cause de lui. Nous avons du travail, je parle à mes collègues géographes, nous avons du travail devant nous pour les convaincre que la géographie peut leur apporter beaucoup et même les séduire. Pierre Georges possédait, comme tous les géographes français du XXe siècle, une solide culture géomorphologique et d'une manière générale, en géographie dite physique. Ce mot dite a fait l'objet de quelques débats dans notre discipline il y a plusieurs années, mais je le maintiens. Même si les chapitres que Pierre Georges consacre à ses approches dans ses ouvrages de géographie régionale ne sont pas les plus neufs ni les plus approfondis, il avait suivi les cours d'Emmanuel de Martonne, qu'il estimait, et qui avait dirigé sa thèse complémentaire. Il avait même écrit plusieurs articles de karstologie sur la Provence et sur le Bas-Languedoc. Il était capable d'enseigner sur ces sujets, comme nous l'avons tous fait, jusqu'à la fin des années 1980, moment du basculement des géographes et de beaucoup de professeurs des universités, dans toutes les disciplines, dans la spécialisation la plus poussée. J'ai personnellement enseigné la géomorphologie, qui n'était pas et n'est toujours pas ma spécialité, jusqu'en 1986. Le problème majeur venait du fait que l'on ne reliait pas assez les différentes branches de la géographie entre elles et que notre discipline était sans doute un peu trop parcellisée. Elle apparaissait alors comme une collection de tiroirs scientifiques étanches, encombrés de faits et de vocabulaire technique, exigeant pour la mémoire et à l'utilité trop difficilement perceptible. Ne jetons pas trop l'opprobre sur cette pratique, même si elle a failli condamner la géographie. Interprétons la période qui va des années 1930 aux années 1990 comme une sorte de longue crise d'adolescence qui s'est achevée par un épisode paroxysmique, la modélisation mathématique à outrance, le systémisme, l'invention d'un vocabulaire abscon et la chorématique, pardon de dire des gros mots, qui ont failli faire oublier le grain et la beauté des paysages, la patte et la patte humaine et le génie des lieux. Pierre-Georges a détesté ces dérives suicidaires des années 80 et 90. La discipline histoire les a peu connues et a su conserver son statut de discipline indispensable à la culture générale, au civisme et au plaisir d'apprendre. De même, Pierre-Georges a-t-il consacré moins d'énergie que d'autres à l'épistémologie et à l'histoire de la géographie, sans pour autant délaisser de fécondes interrogations sur l'utilité de la discipline, comme dans « L'action humaine », étude géographique, qui date de 1968, « Les méthodes de la géographie », 1970, « Le métier de géographe », un demi-siècle de géographie, 1990. Pierre-Georges consacre donc sa thèse à la géographie régionale du Bas-Rhône et sa thèse complémentaire à la forêt de Bercé, dans le pays Manceau. Il participe ensuite à une étude collective sur la Mayenne, la Sarthe et le Loir, trois rivières du centre-ouest de la France, puis publiera pendant et à la fin de la guerre deux études régionales de facture très classique sur les pays de la Saône et du Rhône, puis sur les Alpes, ainsi qu'un curieux petit livre destiné à la jeunesse, dont les accents patriotiques étonnent, à la découverte des pays de France, qui, je crois, a été dédicacé à Yves Lacoste lorsqu'il était encore petit, et qui n'a pas compté pour peu dans son choix de la géographie. Pendant la guerre, Pierre-Georges travaille pour la commission que dirige Gabriel Dessus, dans le cadre de la délégation générale à l'équipement national. Il rédige des rapports, en particulier sur les problèmes de localisation industrielle. Lorsqu'il entre dans l'enseignement supérieur à l'Université de Lille en 1946, il choisit la géographie dite « humaine », qu'il définira plus tard comme l'étude, je cite, « des rapports entre les problèmes d'existence d'une population et le milieu qu'elle occupe et qu'elle utilise ». En réalité, il consacre son énergie à une seule partie de ce programme, à deux approches qu'il estime inséparables, la géographie de la population et la géographie économique. Il y a bien sûr des raisons à cela qu'il me faut évoquer sans détour, et revenir sur les années 1930 et 1940 de sa vie, qui ont laissé une trace indélébile sur sa manière d'être géographe et de concevoir l'université, qui ont aussi incontestablement marqué fortement toute la discipline géographie. Au moment de terminer sa thèse, il adhère au comité de vigilance des intellectuels antifascistes, fondé par Pierre Jérôme, dit François Walter, en 1934. L'ethnologue Paul Rivet, le philosophe Alain, le physicien Paul Langevin sont les figures tutélaires de ce mouvement éphémère. Cet engagement, clairement marqué à gauche, accompagné de déclarations explicites et d'une grève des cours, n'a pas eu l'heure de plaire aux militaires qui dirigeaient le Prytané de la Flèche. Pierre-Georges est donc muté en cours d'année 1934-35 à Chaumont et à la rentrée 1935 au lycée de Montpellier, où il restera un an, avant d'être nommé à Paris au lycée Charlemagne, qu'il connaît bien puisqu'il y a fait ses études, entre 1936 et 1941, puis au lycée Lacanal à Sceaux de 1941 à 1946. Il n'accepte pas son éviction du Prytané militaire pour raisons politiques et intente un recours en Conseil d'État. Léo Goldenberg, le futur Léo Hamon, défend ses intérêts. Pierre-Georges gagne son procès et touche des dommages et intérêts substantiels qui lui permettent d'assouvir un charmant caprice, acheter la voiture bourgeoise de ses rêves, une Hotchkiss, cite mes sources, qui sont familiales, une Hotchkiss qu'il gardera longtemps. Pour le remplacer à la Flèche, en cours d'année, un certain Louis Poirier est nommé. C'est un jeune agrégé de l'année qui enseigne au lycée de Nantes, élève d'Emmanuel de Martonne, plus connu sous le nom de plume qu'il adopte quelques années plus tard, Julien Gracq. Sur les bulletins scolaires des élèves du Prytané, En signe de solidarité, Julien Gracq fait précéder sa signature de la mention pour le professeur empêché. Pendant la guerre, sans renoncer à ses engagements, Pierre-Georges adopte une attitude discrète, mais frôle l'arrestation à plusieurs reprises. En 1929, il s'était déjà rendu à l'est de l'Europe, lors d'une excursion interuniversitaire en Yougoslavie. En 1930, Emmanuel de Martonne et les animateurs de la Bibliographie géographique internationale lui recommandent d'apprendre le russe, afin de couvrir le champ des publications soviétiques. C'est ce qu'il fait, sans difficulté, encouragé par André Mazon, qui dirige à l'époque l'Institut d'études slaves. Il se rend en Russie en 1933 et 1936, visite Moscou, Leningrad, Kharkov et la région des steppes. Il fréquente aussi d'autres pays d'Europe orientale, la Pologne en 1934, à l'occasion du congrès de l'Union géographique internationale à Varsovie, la Tchécoslovaquie, où il séjourne un trimestre. On imagine facilement le visage de l'Union soviétique qu'il découvre au cours de ses voyages très encadrés. Il a décrit d'ailleurs l'un de ses voyages, où il était accompagné de Jean Drèche, et ça a commencé à lui ouvrir un peu les yeux. Puisqu'il a compris que les villages Potemkin de Catherine de Russie n'étaient pas totalement abandonnés dans l'Union soviétique. Il est enthousiasmé par le modèle soviétique. Et en 1935, il adhère au Parti communiste français, la même année que Julien Gracq, qui lui rendra sa carte 3 ans plus tard, au moment du pacte germano-soviétique. Pierre-Georges en sera membre pendant un peu plus de 2 décennies et en restera marqué à jamais. Ses écrits sur l'URSS et sur les démocraties populaires témoignent à la fois de l'énorme travail de lecture accompli par lui pendant la guerre et dans les années qui ont suivi, mais aussi, évidemment, de l'efficacité des réseaux d'influence soviétique, d'influence scientifique, de feu l'Union soviétique et de ses satellites. Pierre-Georges est, je crois, resté assez fier de son livre sur l'URSS, globalement, pris globalement, écrit pour la première fois en 1946, mais un peu amendé en 1962, même si l'expérience socialiste y est encore présentée de manière très positive. Il l'était moins, semble-t-il, de son petit livre intitulé « Les démocraties populaires », publié en 1952, et qu'il taira par la suite dans ses bibliographies. Le premier chapitre s'intitulait, très sobrement, « Du passé, faisons table rase ». Il retournera maintes fois en URSS et dans les pays satellites dans les années d'après-guerre, parfois en compagnie de Jean Drèche ou de certains de ses élèves. Il a évoqué cette période à plusieurs reprises au cours de colloques ou de conversations avec certains de ses élèves et de ses amis. Nul doute que son influence a été grande, d'autant qu'il enseigne à partir de 1948 à la Sorbonne et qu'entre 1945 et 1956, il publie 18 livres. Vers 1956, sa mouvance est d'une quinzaine d'universitaires au sein d'une discipline qui en compte 67. C'est-à-dire le quart. Son rayonnement passe aussi par son cours de Sciences Po, que certains d'entre vous dans cette salle ont suivi, où il est à l'époque avec Jean Bruat et Jean Babi, l'un des 3 Marx Brothers, comme les appelaient gentiment les élèves de Sciences Po à cette époque. Il corrige sans concession pendant des années 600 copies à la fin de l'année préparatoire de Sciences Po, où il assure le cours d'initiation à la géographie. Beaucoup de jeunes géographes proches de sa mouvance et de ses méthodes scientifiques viennent lui demander de diriger leurs travaux, tandis que ceux qui souhaitent travailler en géographie physique vont voir Jean Drèche, du moins pour les Parisiens, qui, pour sa part, s'intéresse aussi aux questions coloniales et à l'Afrique et au Proche-Orient. Yves Lacoste a bien souvent dit l'influence qu'il avait reçue de ses 2 amis de feu son père jusque dans leurs engagements politiques, dans ses engagements politiques. Pierre-Georges est certes habité de fortes convictions pendant ces 2 décennies, mais jamais il n'ira jusqu'à écrire, comme Jean Tricard dans « La pensée » en 1956, que l'on peut être un bon géomorphologue si l'on n'est pas marxiste, ou comme Jean Drèche dans « L'humanité », mais beaucoup plus tard, c'est en 1984, il est très difficile d'être bon géographe et réactionnaire. Question d'éducation, peut-être, sans doute, mais aussi de bonté et probablement aussi de finesse d'esprit. Comme beaucoup, il tombe de haut au moment de la déstalinisation et de la répression de la révolution hongroise de 1956. Mais il n'est pas l'homme des ruptures brutales. Après un temps de réflexion, il quitte le Parti communiste sur la pointe des pieds. Dans ses souvenirs, ça se passe en 1956. Raymond Guglielmo pense que c'est en 1960. Pierre-Georges explique lui-même cette discrétion par le désir, et je le cite, de ne pas manquer au devoir du souvenir envers ceux qui avaient disparu dans la tourmente. C'est pour cela qu'il ne devient pas militant anticommuniste et qu'il choisit, comme il le dit lui-même, je le cite toujours, le repli sur des valeurs qui ont aussi leur sens, celles de la recherche et de la connaissance. À propos de l'URSS, il écrira bien plus tard, en 1976, à son ami québécois Louis-Edmond Hamelin. Sans doute êtes-vous allé au congrès de Moscou, qui avait eu lieu en 1976, et c'est une raison pour moi de regretter de ne pas m'y être rendu. Mais je suis assez attristé par les conditions de travail et de pensée dans ce pays dont j'avais espéré tout autre chose, et j'ai préféré m'abstenir. Geste individuel, sans aucune portée assurément, mais qui me met en règle avec ma conscience. Dans les années 1970, il met en garde Marie-Claude Morel, qui prépare sa thèse sur l'espace rural en Russie d'Europe sous sa direction, je crois la seule qu'il ait jamais dirigée sur l'URSS, contre les risques de décrire, là encore, des villages Potemkin. En 1991, il évoque l'attachement à certaines formes d'idéalisme politique qui ont abouti, je le cite, à des analyses à l'eau de rose incontestablement non justifiées. Et en 1995, il dira, je le cite, qu'une idéologie que l'on croyait capable de transformer, ou plutôt d'améliorer, les rapports sociaux, était purement et simplement un bluff couvrant une dictature. Il mettra cependant à jour son que sais-je sur la géographie de l'URSS jusqu'en mars 1991, à quelques mois de l'effondrement de l'URSS, conscient du caractère probablement éphémère de son titre, comme il l'écrit à Marie-Claude Morel dans sa dédicace, « Quelle audace que de publier en 1991 une nouvelle édition de cette géographie de l'URSS ». Dès le début des années 1960, commence pour lui une longue évolution intellectuelle qui le tiendra plutôt à l'écart des débats politiques et surtout politiciens et syndicaux. Il s'entend très bien avec Alfred Sauvy, avec Raymond Aron, avec André Siegfried, avec Jean-Baptiste Durosel, mais aussi, paradoxalement, avec René Dumont, dont le tiers-mondisme le séduit assez. Il reçoit d'ailleurs beaucoup d'Africains chez lui, à cette époque. Peut-être en raison des pratiques qu'il avait admirées en Union soviétique naguère, il voue aussi une grande estime aux grands commis de l'État, parfois un peu technocrates, des débuts de la Ve République, comme Paul Delouvrier, par exemple. Il adopte avec conviction la classification de Jean Fourastier entre secteurs primaires, secondaires et tertiaires et fait partie des premiers à faire réfléchir les géographes sur le tertiaire. De ses choix de jeunesse, Pierre-Georges conserve un grand intérêt pour les questions économiques et sociales. Il se passionne tout au long de sa vie pour l'analyse géographique des faits démographiques et, à sa façon, sociaux, mais surtout pour celle de la production économique, en particulier agricole et industrielle. Sa vision des réalités est marquée par un positivisme rationaliste, l'expression n'est pas de moi, mais d'Hélène Lamic, qui constate très justement que ni Pierre-Georges ni ses élèves n'ont souhaité explorer à cette époque l'univers des représentations du vécu et du désir. Sous la plume d'Hélène Lamic, ces mots sont assez savoureux, puisque ce sont des mots récents, mais qui ne correspondent pas à la manière dont elle a pratiqué la géographie pendant de très longues années. Il se méfie autant de la précision mathématique que de l'à peu près. Il me semble qu'on peut néanmoins affirmer qu'à son corps défendant, il a été, d'une certaine manière, l'inspirateur du systémisme des années 1990 en France. Il écrit avec fébrilité et publie de nombreux manuels aux presses universitaires de France, désormais son éditeur, dont il est proche de la famille fondatrice, les Engoulevents. Il affectionne tout particulièrement le format de la collection Que sais-je, dont il rédige 18 volumes, souvent réédités, mis à jour et parfois amendés en profondeur. Parmi eux, citons « Géographie sociale du monde et l'économie de l'URSS », qui sont les deux premiers de sa plume en 1945, « Géographie agricole du monde et l'économie des États-Unis » en 1946, « Géographie industrielle du monde » en 1947. En ce qui concerne l'économie des États-Unis, il ne pouvait pas s'y rendre, et donc c'était un travail reposant uniquement sur des lectures. Certains d'entre eux sont écrits en moins d'un mois, sans qu'ils ralentissent pour autant ses autres activités académiques. Il dirige aussi deux collections phares de la discipline, France de demain et Magellan. Les étudiants achètent encore des manuels à cette époque, donc les géographes écrivent, publient et les éditeurs sont heureux de les publier. Enfin, il publie quelques-uns des précis et manuels incontournables des étudiants en géographie, en urbanisme et en sciences politiques de leur époque. La ville, le fait urbain dans le monde, 1952, la campagne, le fait rural dans le monde, 1956, la France, 1967, population et peuplement, 1969, Géographie active, 1964, publié avec Raymond Guglielmo, Bernard Kayser et Yves Lacoste. Le dictionnaire de géographie qu'il dirige en 1970 est toujours disponible constamment mis à jour par les soins de notre collègue Fernand Verger. Il porte un grand intérêt aux villes, mais elles sont longtemps restées pour lui des espaces traversés de flux matériels et très peu des pôles de cristallisation des identités culturelles de leurs créateurs et de leurs habitants. Jean-Claude Boyer, l'un de ses élèves, le présente même comme un précurseur de Cristallaire et de Brian Berry. Il interprète les travaux de ses élèves Bernard Kayser sur la Côte d'Azur, Raymond Dugrand sur le Languedoc et Michel Rochefort sur l'Alsace comme très en avance sur les théories anglo-saxonnes de la ville et des réseaux urbains. D'autres suivront, dont ceux de Jean-Claude Boyer lui-même, sur les Pays-Bas. Permettez-moi, si vous le voulez bien, un témoignage personnel. Pierre-Georges, je vous l'ai dit il y a un instant, m'avait corrigé une copie de concours blanc d'agrégation vers décembre 1970 ou janvier 1971. Le libellé qu'il avait imaginé, correspondant à la question d'agrégation qui s'intitulait « L'élevage dans le monde », était parfaitement conforme à sa vision d'alors de la géographie. Je cite « La production et la consommation des produits animaux dans les pays industriels de l'hémisphère nord ». Je dois dire que je ne dominais pas assez le sujet, mais qu'il m'avait tout de même gratifié d'un généreux 9 sur 20, une note presque acceptable pour une copie d'agrégation. D'une écriture bien lisible et aux lettres très bien reliées entre elles, il avait porté son jugement à l'encre rouge, que je cite, « exposé trop énumératif, qui ne fait pas assez ressortir des types et formes de consommation et en regard des types et formes de production et de marché ». Tout le Pierre-Georges de cette époque est dans cette phrase. Il est vrai qu'en relisant cette copie, je m'aperçois que les chiffres y étaient très peu présents. J'étais déjà fâché avec eux. L'un des rares que j'y trouve et qui me remplit rétrospectivement de joie est le chiffre 400. Il indique le nombre approximatif des fromages français. Celui-ci, je l'avais retenu et il a cheminé en moi jusqu'à me faire entrer plus tard dans le chatoiement de cet univers délicieux de la géographie gastronomique où je m'épanouis désormais. En 1970-71, Pierre-Georges avait aussi fait inscrire au programme de l'agrégation une autre question, bien en sa manière, et qu'aucun géographe français, je crois, ne traiterait aujourd'hui avec plaisir. Le titre était « Géographie des minerais métalliques dans le monde ». Il en avait assuré le cours à l'Institut de géographie de la rue Saint-Jacques, je l'avais suivi. L'hématite et la bauxite le mettaient en joie, tout autant que la production hydroélectrique du Nord canadien, par ailleurs. Alors que 20 années plus tard, il s'étonnera que les géographes se soient un temps laissés éblouir par les illusions du productivisme. Il ajoutera même, je le cite encore, qu'au lendemain de la guerre, certains admiraient l'accès des pauvres paysans aux HLM de banlieue. En quelque sorte, concrétisation du positivisme, du productivisme et du progressisme du XIXe siècle. Après avoir quitté le Parti communiste, Pierre-Georges s'est senti sans doute assez malheureux, presque orphelin. D'autant plus que certains de ses amis et de ses élèves ne l'ont pas compris, ou pour certains pas tout de suite. Il a su néanmoins faire la part des idées et des sentiments, et tout en prenant ses distances avec certains, a conservé estime et affection pour ses disciples historiques, Jean Bastier, Raymond Guglielmo, Yves Lacoste, Michel Rochefort, Raymond Dugrand, Bernard Kayser et sans doute d'autres. Il continue à écrire beaucoup et à enseigner tant en France qu'à l'étranger et bénéficie dès lors d'une reconnaissance bien plus grande qu'auparavant. En 1969, c'est Louis-Edmond Hamelin qui a fait ce calcul et retrouvé cette statistique, il occupe le 12e rang parmi les écrivains français les plus traduits dans le monde. Les pays qu'il fréquente le plus, après s'être abstenu longtemps de se rendre au-delà du rideau de fer, sont le Canada, l'Amérique latine, Mexique, Brésil, Argentine, où il a beaucoup enseigné, l'Italie, la Tunisie. Longtemps, il n'a pu se rendre aux États-Unis en raison des visas soviétiques qui constellaient son passeport. Il reconnaît lui-même sa méconnaissance de l'Asie, je le cite, « une partie du monde m'a échappé, tout le domaine des surcharges de population », le mot « surcharge » est très connoté, « des surcharges de population de l'Asie, qu'il s'agisse de la Chine ou qu'il s'agisse de l'Inde ». Secondairement aussi, le grand continent africain. Au fond, il a davantage fréquenté les pays très peu peuplés que les régions du monde densément habitées, où les modes de vie en société sont plus importants que les structures économico-sociales. Son influence sur la géographie française demeure forte pendant très longtemps, bien qu'il ait abandonné le rôle de grand patron incontournable assez tôt dans sa carrière. Il dirige la bibliographie géographique internationale jusqu'en 1972, dirige de fait le comité de rédaction des Annales de géographie et appartient au directoire des presses universitaires de France. Ce sont des moyens de peser dans une discipline. À l'égard de l'orientation de beaucoup de géographes français vers les applications de leur discipline à la gestion de l'environnement, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, Pierre-Georges demeure réservé, voire opposé. Il considère que le géographe est un notaire, selon le mot qu'il a employé devant moi encore vers 2001, et que le géographe ne doit pas se substituer aux ingénieurs ou aux décideurs politiques. Il l'écrit clairement dès 1965, le rôle du géographe est la connaissance des situations. Puis en 1989, la discipline est devenue une science politique, dans la mesure où elle fournit des éléments de choix, du possible et de l'impossible. Michel Rochefort l'a bien compris et lui attribue le point de vue suivant. Si le géographe veut être un acteur, il lui faut pactiser avec la majorité politique élue. Et finalement, en dehors de sa participation à quelques commissions du plan entre 1945 et 1950 et à quelques réunions pendant la Seconde Guerre mondiale autour des problèmes industriels, il ne franchira jamais ce pas, à la différence de Michel Fliponneau ou de Raymond Dugrand, élus municipaux et régionaux, ou de Roger Brunet, conseiller écouté de certains ministres et surtout du délégué à l'aménagement du territoire dans les années 1980 et au début des années 1990. De même prend-il ses distances avec les méthodes de la géographie sociale qui l'avaient tant séduit dans sa prime jeunesse, et Michel Rochefort fait remonter cette inflexion à 1954. Il décrit, Michel Rochefort, une scène mémorable de l'histoire de notre discipline, au cours de laquelle Raoul Blanchard s'est emporté contre les méthodes de Marcel Roncaiolo, étudiant les attitudes et les investissements de la bourgeoisie marseillaise, sans que Pierre-Georges, et qui a dit, je crois, en substance, s'il faut aller fouiller dans le portefeuille, sous-entendu d'action des gens, je m'élève violemment contre cette dérive de la discipline. Et sans que Pierre-Georges, organisateur du séminaire au cours duquel s'exprimaient ses élèves, ne vienne prendre sa défense. Pour lui, la géographie active est à l'opposé de la géographie appliquée et il n'abandonnera pas cette conviction jusqu'à la fin de sa vie. Il est élu en 1980 au sein de notre compagnie au fauteuil de l'historien Marcel Dunant où il rejoint un autre géographe, son ami Maurice Lelanoux, élu 5 ans plus tôt. Il était un peu opposé à Maurice Lelanoux sur la question de la géographie appliquée et de la géographie active, mais en réalité, ils étaient très proches et très amis. Il a surtout écrit, dans les dernières décennies de sa vie, quelques-uns de ses livres les plus marquants. « Les hommes sur la terre », »,« La géographie en mouvement » en 1989, « Le métier de géographe » en 1990, « Le temps des collines » en 1995, qui, je crois, doit beaucoup à son fils Jean-Pierre. Dans le premier d'entre eux, il exprime comme un regret le fondement concret de l'identité des groupes humains et d'ordre culturel, ce qui implique son essence historique. On a, dans un passé récent, attribué une place marginale à la géographie des religions, à la géographie des langues, et laissé à l'ethnologie un monopole de fait dans ce domaine. Il rend au passage un hommage appuyé à Yves Lacoste et aux collaborateurs d'Hérodote, qui lui semblent porter sur ces questions ce qu'il appelle un regard froid, ce qui est sous sa plume un compliment. Je ne suis pas sûr qu'Yves Lacoste l'ait pris pour un compliment, parce qu'il a tout sauf le regard froid. À l'évidence, il appréciait davantage la revue Hérodote dans les années 1990 qu'en 1976. Il faut regretter que les géographes de la Sorbonne, dans l'immédiate après-guerre, aient été aussi matérialistes. Alors qu'au Collège de France, les idées et les libres choix des sociétés étaient bien plus à l'honneur, grâce à Pierre Gourou, à Roger Dion, voire à Maurice Lelanoux, passionnant successeur de Jean Brune, dont on a évoqué la mémoire tout à l'heure. Dans ses derniers écrits, il s'est étroitement rapproché des conceptions géographiques de Maurice Lelanoux, et l'homme producteur de sa jeunesse est devenu enfin un homme habitant. Quelques-unes de ses dernières pages ont été publiées dans un fascicule dirigé par notre confrère Alain Plantet. Il y chante la culture de la campagne, celle de la patrie, celle des cimetières et des monuments, au souvenir de ceux qui sont morts ailleurs pour que survive l'identité de la campagne où ils étaient nés. Symbole, les petites églises perdues dans le bocage, les monastères secrets au cœur des forêts, les abbayes romanes, le défi de Vézelay appelant la croisade. Le palais de l'industrie de Kharkov est bien loin. Son grand âge est attristé par la perte de son épouse et par la cécité presque totale qui l'empêche de lire et d'écrire. Il conserve néanmoins toute sa lucidité, dicte le temps des collines et reçoit volontiers ses amis et collègues dans sa maison de Châtenay-Malabry où il s'éteint à 97 ans le 11 septembre 2006 avant de rejoindre le pays de ses chères collines, celui qu'il appelle dans son dernier livre « Le pays de la géographie révolue ». Merci beaucoup de votre attention.
Vous venez d'entendre par Jean-Robert Pitt la notice sur la vie et les travaux du géographe Pierre Georges.